France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto in la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Syrie ce soir.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
Donald Trump hier donc à Riyad et son annonce de lever les sanctions contre la Syrie suivie, vous l'entendez, des applaudissements de toute la délégation saoudienne. On a même vu le remerciement appuyé de MBS Mohamed Ben Salman et aussi cette phrase de Trump d'ailleurs, qu'est-ce que je ferais pas pour vous faire plaisir, hein, texto, fermez les guillemets. Bonsoir à la Côte-Manie.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Libération, vous êtes aussi franco-syrienne. Cette scène, cette surprise du chef, cette levée des sanctions, elle peut bouger la Syrie. On sait aussi à quel point elle peut faire bouger toutes les plaques tectoniques de la région. La Syrie d'abord, on ira à Alep dans un petit instant, tout cela accueilli avec des grandes manifestations de joie. Ça change tout pour les Syriens, vraiment. Est-ce qu'on se dit, avec un peu de chance, la reconstruction commence maintenant?
Ça fait des mois, depuis en fait le renversement du régime, et depuis ce nouveau pouvoir, ces nouvelles autorités, que malgré la levée des sanctions européennes en
partielle,
grande partie, par l'Europe, par le Royaume-Uni, par d'autres, les sanctions américaines restaient une clé parce que n'importe quel transfert d'argent à travers le système bancaire international ne pouvait se faire sans. Et tous les Syriens, c'était vraiment l'obsession générale. Les sanctions américaines, est-ce que ça va marcher? Et là, tout d'un coup, alors qu'on parlait d'une ou deux sanctions, bon, avec des conditions, tout d'un coup, badaboum. Bon, évidemment, il a fallu que l'Arabie Saoudite paye ça des centaines de milliards de dollars, mais ça a été un moment absolument extraordinaire, inattendu, que ce soit aussi total, aussi brutal, aussi enchanteur pour les Syriens.
Mais alors, badaboum, à la Côte-Manie, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quasiment demain? Parce qu'on avait bien vu aussi, dans les cinq premiers mois, on a vu les navires générateurs, notamment ceux qui venaient de Turquie, ceux qui venaient du Qatar. On sait qu'il y a évidemment un problème de blé, on sait qu'il y a un problème de pétrole. Enfin, normalement, c'est d'Iran qu'il vient le pétrole. Le badaboum, il veut dire quoi demain, en fait? Qu'est-ce qui
prend
demain? Qu'est-ce qui change, là, tout de suite?
Demain, il faut encore que... Il y a, je crois, tout un processus de mise en application de la levée des sanctions. Je ne sais pas par quel processus américain ça doit passer.
Ni par où ça commence, d'ailleurs.
Oui, ni par où ça commence. Mais bon, Trump a jeté la chose comme ça devant MBS, comme il l'a dit. Mais c'est sûr que ce n'est pas demain que ça va changer. Ce qui va changer demain, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui sont dans les starting blocks un peu partout. Que ce soit pour des investissements étrangers et encore plus pour les Syriens expatriés, des grandes fortunes syriennes qui sont dans le Golfe ou ailleurs, toutes sortes d'entrepreneurs et d'heureux, ils peuvent commencer à se projeter, commencer à entreprendre et apporter assez rapidement un bol d'air avant la mise en place effective. Je ne sais pas techniquement combien de temps ça prend, aussi bien côté américain que côté syrien, parce que après 14 ans de sanctions, je ne sais pas dans quel état est le système financier et tout le système économique syrien.
Vous le dites, la Côte-Manie, ça peut vouloir dire retour de certains Syriens, de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui peuvent faire repartir le pays. Ça peut vouloir dire aussi retour des intellectuels, des acteurs culturels. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'en mêler aujourd'hui. Vous revenez de Syrie, vous le racontez dans le 1 qui sort aujourd'hui ou demain seulement.
Aujourd'hui.
Et vous dites même déjà que Damas, où vous étiez notamment, avait un autre visage, en fait. A de toute façon un autre visage.
De toute façon, le nouveau visage, moi j'étais la première fois, 4 jours après la chute du régime, c'est-à-dire le 12 décembre. Déjà, c'est un autre Damas que j'ai découvert. Enfin, c'est mon Damas que j'ai retrouvé. Mais c'est aussi, tout d'un coup, cette liberté retrouvée, cette parole libérée, cette... vraiment... l'absence de surveillance, l'absence de pression qu'il y avait avant, tout ça a tout de suite été bousculé. Et c'est vrai que ceux qui ont été les plus entreprenants, on va dire, et qui donnent ce visage, ce beau visage de demain, c'est tous les milieux culturels, la société civile, beaucoup en interaction avec les expatriés qui sont rentrés, qui ont, se sont lancés dans des expositions, dans des concerts, dans des conférences.
Alors ouais. Après, il faut faire attention, j'imagine, vous serez d'accord avec ça, de ne pas repeindre tous les murs en rose non plus.
Non.
Tout n'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire dans ce pays. On a bien vu jusqu'à quel point le défi de la Syrie, c'était de fédérer une société qui est faite de multiples communautés. On sait bien ce qui s'est passé avec les Alaouites, avec les Druzes récemment. Est-ce que cette levée de sanctions et donc l'apaisement économique que ça représente, ça veut aussi dire un apaisement de ce côté-là? Ou est-ce qu'à l'inverse, le risque, c'est de donner des ailes à ceux qui sont les plus radicaux et qui ont commencé ces exactions-là?
Non, je crois que, bon, il y a plusieurs aspects. La clé économique était fondamentale pour plusieurs raisons. C'est que le pouvoir, les autorités, maintenant, ont les moyens, notamment de payer les soldats, la police, les forces régulières, qui étaient vraiment payées des clopinettes, ou presque pas, avec 2 mois de retard, des fois. Donc ça, sur le plan sécuritaire, ce qui est un problème majeur de ce, actuellement en Syrie. Il est clair que ce pouvoir ne contrôle pas. Ne contrôle pas tout le territoire, ne contrôle pas plein de groupes armés, qu'ils soient proches ou plus loin de lui, il n'a pas les moyens suffisants pour contrôler tous ces fous furieux. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays avec 14 ans de guerre, des milices dans tous les coins.
Ouais. Mais du coup, est-ce que ça assoit son pouvoir à Al-Shara ou pas?
Pour l'instant, ce qui assoit certainement, c'est vraiment solidement son pouvoir, c'est la confiance internationale. Je veux dire, la semaine dernière à Paris, aujourd'hui à Riyad, avec Trump, avec MBS, avec au téléphone Erdogan, qui était là pour dire voilà.
Qui était même en visio.
Toute cette mobilisation régionale, essentiellement, le pays du Golfe, Turquie, etc., Europe aussi, je veux dire, bon, Macron a aussi bien poussé, là, côté européen. Je crois que ça donne confiance aux Syriens. Bon, si le monde entier veut qu'on s'en sorte, on devrait pouvoir s'en sortir.
Alors, on verra justement comment ça se passe dans le monde entier, les cartes qui se jouent, les plaques tectoniques qui bougent. Je voudrais quand même qu'on aille en Syrie, qu'on aille à Alep. Bonsoir, Manon Chapelain.
Bonsoir.
C'est là que vous êtes, c'est là que vous étiez, j'ai presque envie de dire par hasard. En fait, hier, lorsque vous avez entendu, vous aussi, cette annonce-là, chez vous, c'était des écrans sur Trump, c'était des klaxons, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Oui, c'est ça. Alors moi, je me trouvais dans un restaurant hein, lorsque l'annonce elle a été faite. Et les Syriens autour de moi ont d'abord plutôt réagi avec stupeur, un peu comme si personne n'y croyait vraiment. Beaucoup commençaient à perdre espoir hein, 6 mois après la chute du régime. Et puis la soirée s'est rapidement transformée en une fête collective avec partout des scènes de liesse, des concerts de klaxons, des familles qui défilaient dans la rue avec le drapeau de la Nouvelle-Syrie. L'ambiance faisait un peu penser à celle après l'annonce de la chute du régime. On l'a d'ailleurs pas mal entendu, hein, des Syriens qui parlait de du deuxième événement le plus important pour eux, pour leur pays durant les dernières décennies.
Après, Manon, je repense à un reportage que vous avez fait pour nous ici même. C'était vraiment il n'y a pas longtemps pour acter les premiers 5 mois de cette nouvelle Syrie avec tous ceux qui essayaient de relancer leur commerce, relancer leurs entreprises. Est-ce que pour tous ces gens-là, une levée des sanctions, ça veut dire que leur vie peut changer ?
Oui, ça veut dire beaucoup et pas que pour ces entrepreneurs. Hein. Faut s'imaginer que 90% de la population vit encore ici sous le seuil de pauvreté. Comme on le disait, hein, la possibilité de faire des transferts d'argent à l'international empêchait tout commerce de se créer, tout investissement massif dans le pays, toute reconstruction. Les sanctions, elles impactaient tout le monde, les jeunes qui cherchaient du travail, les salariés du secteur public, on l'a dit, hein, dans les écoles, les hôpitaux. Moi, on m'a dit des professeurs, des infirmières qui étaient payés à peine $20 par mois. Même un ministre m'a dit que jusqu'à présent, il était à peine payé. Et donc, comme on le disait, ça peut aussi vouloir dire le potentiel retour de ces milliers de Syriens exilés à l'étranger. Hier soir, j'étais avec des exportateurs de pièces détachées qui vivent en Europe. Et ils pensent déjà à revenir à Alep pour participer eux aussi à la reconstruction de leur ville.
Je voudrais un mot là-dessus, puisqu'on l'évoquait à l'instant avec Alaa Kodmani. Manon, pour vous qui êtes sur place, est-ce que tout cela est de nature à calmer les tensions intercommunautaires dont vous nous parliez, vous aussi, et qui étaient en train d'atteindre un niveau catastrophique?
Oui, alors c'est la grande question. Hier soir, justement, j'étais avec un homme à la tête d'une ONG qui travaille sur le dialogue intercommunautaire. Lui, c'est une des premières choses qu'il m'a dit, hein, que la pauvreté, ça avait bien évidemment un impact sur les tensions actuelles, notamment au sein de la communauté alaouite sur la côte à Tartous, parce que nombre d'entre eux travaillaient au sein des institutions de l'Ancien Régime. Ils ont aujourd'hui plus d'emploi, plus de revenus. Donc voilà, ça peut changer quelque chose. Et puis, de manière générale, la levée des sanctions, ça va aussi permettre à beaucoup d'organisations locales, internationales, de financer des projets, que ce soit sur la justice transitionnelle, la facilitation du retour des familles déplacées et puis bien sûr donc des projets traitant du dialogue entre les communautés.
Merci beaucoup Manon Chapelain avec nous depuis Alep. À la Côte-Manie, il y a plus qu'une levée des sanctions, il y a eu une poignée de main ce matin hein, entre Trump et le nouveau dirigeant syrien devant l'Arabie Saoudite, devant Erdogan effectivement qui est là et dont on a bien le sentiment, on a bien compris jusqu'à quel point il était celui qui tirait aussi beaucoup de ficelles. Qu'est-ce que ça dit sur la région? Est-ce qu'on est en train de voir un renversement durable de cette partie de la région?
Bon, je crois qu'il faut d'abord se dire qu'il y a un nouveau leader puissant, hyper puissant dans cette région.
Est-ce que vous parlez d'Erdogan
c'est
ou est-ce
Mohamed
que...
Ben Salman.
Et alors, j'allais vous demander si vous parliez de Ben Salman ou d'Erdogan, vous voyez.
Non, c'est Mohamed Ben Salman. C'est clair, là, après cette séquence avec Trump, bon... Il a dépensé des centaines de milliards. Il a un peu acheté Trump. Hein.
Ouais, ouais.
Il a acheté ses positions. Ça avait commencé la semaine
il
dernière.
Il a acheté 142 milliards, le prix de l'accord sur la défense.
Et puis, la semaine dernière déjà, il a réussi à influer pour que Trump s'éloigne des Israéliens, enfin, contrarie les Israéliens sur plusieurs points, avec l'accord avec les Houthis. Il a encouragé à engager le dialogue avec l'Iran. On a maintenant un MBS assagi, tout d'un coup. Enfin, tout d'un coup, ça a pris du temps. Hein. Il est passé par plusieurs tempêtes avant de s'assagir. Mais on a quelqu'un d'assagi qui veut être le leader d'un Moyen-Orient pacifié, sans guerre, sans problème. Évidemment autoritaire.
Mais là-dessus, il ne sera jamais ennuyé par les Américains qui ne vont jamais lui demander des comptes.
Je crois que maintenant, il faut qu'on réalise, après cette séquence, combien le MBS est un homme puissant et combien l'Arabie Saoudite va peser sur tous les dossiers de cette région. Aujourd'hui, même Erdogan a dû s'entendre avec les Saoudiens. Que tous ces gens-là, y compris le Qatar et même les Émirats qui ont toujours voulu faire une partition à part, sont maintenant à peu près dans une position d'harmonie. On veut soutenir l'avenir de la Syrie. On veut que ce pays se reconstruise et que qu'il soit pacifié. Je crois que ça donne grand espoir. Maintenant, le point qui est encore le point noir dans la région, ça reste Israël-Gaza.
Alors, Trump dit que le président syrien lui a assuré qu'il était prêt à une normalisation avec l'État hébreu. C'est ce que dit Trump. On sait bien qu'il a aussi des messages à envoyer à Israël. En ce moment, ça ne se passe pas bien avec Netanyahou. Donc, il y a un certain nombre de messages qu'il veut lui envoyer. La question, c'est est-ce que, oui, c'est une possibilité, un élargissement des accords d'Abraham qui irait jusqu'à la Syrie et qui serait une forme de pacification et d'isolement total d'Israël. Ça vous paraît possible qu'on aille jusque-là ou pas à la Côte-Manie?
Je ne sais pas, on ne peut pas non plus parier sur un isolement d'Israël par rapport aux États-Unis pour l'instant. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les conditions qui étaient posées par Trump pour la levée des sanctions sont devenues des conseils post-levée des sanctions, dont éventuellement adhérer. Alors, je vous invite à adhérer aux accords d'Abraham maintenant que j'ai été gentil. C'est plus une condition, c'est plus très contraignant. En même temps, bon, il pourrait être beaucoup plus sérieux sur le combat contre le terrorisme, sur les djihadistes étrangers, mais toutes ces mesures, ce qui étaient des conditions, sont devenues des recommandations.
C'est à suivre, en tout cas de très près, on le fera, et avec vous, avec plaisir, à la Côte-Manie. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe en Guinée après un match de foot qui tourne au drame et des autorités qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Accrochez-vous, je vous le dis, c'est pas une histoire facile. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, le gang du mercredi, c'est d'abord Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Kosovo, 15 votes, 15 échecs au Parlement qui n'a toujours pas de président.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet. Bonsoir Louise.
Bonsoir. France-Algérie, anatomie d'une crise qui s'enlise.
Et puis Cannes, bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
C'était bien ou pas?
Ma mission, et je l'ai acceptée, c'est de ne rien vous révéler tant que le film n'a pas démarré. Et ben en tout cas, c'est le feu ici sur la Croisette, avant de découvrir dans quelques minutes le dernier volet de la saga.
Allez, restez avec nous les amis, le tour de la planète continue, il passe par l'Ohio où se sont formés les Black Keys, Calling Kin Snake. A tout de suite sur France Inter. Le reportage ce soir est en Guinée. Nous sommes très exactement à Nzérékoré, c'est la capitale de la région forestière de la Guinée. Je vous ramène d'abord au dimanche 1er décembre, au stade de foot, finale d'un tournoi à la gloire de Mamadi Boumbouya, le putschiste du 5 septembre 2021, officieusement en lice pour la présidentielle promise normalement cette année. T-shirt donc à l'effigie de Boumbouya, argent distribué aux enfants, ils sont nombreux. En deuxième mi-temps, un carton rouge est contesté et le match tourne au chaos. Gaz lacrymogène, mouvement de panique, piétinement et pire encore, les officiels présents dans leur fuite en voiture percutent des spectateurs, dont des dizaines d'enfants. Le bilan est terrifiant, 56 morts selon le gouvernement, mais plus de 140 selon le collectif des défenseurs des droits humains de la région. Le reste, accrochez-vous, c'est rude, c'est Agnès Fèdre qui raconte.
Nous sommes pour la bonne cause, n'ayez pas peur. Soyez prudents, mais n'ayez pas peur.
Ils sont une quinzaine autour d'une table en bois, victimes ou parents de victimes de la tragédie du 1er décembre. Tous ont résisté aux pressions et aux cadeaux visant à les faire taire. Parmi eux, Maria Constance Coulemou, elle a perdu son garçon, Robert, 11 ans, qui aimait, dit-elle, le football et l'église.
Robert, il était un petit docile. C'est un petit qui partait au marché, achetait les condiments, revenait, fait un peu de cuisine avant que je ne quitte au champ. Et voilà. Mais j'ai du regret aujourd'hui. Surtout quand je vois ses amis et que je ne vois pas Robert. Ça me... Moi, je veux que la justice soit faite. Des enfants, des mineurs, plein de vies qui sont partis comme ça. Et pourtant, on pouvait les empêcher de les faire rentrer. Et pourquoi lancer de gaz lacrymogène sur les enfants? Ce n'était pas contrôlé, c'était de la pagaille. Voilà, c'est ça.
Des gaz lacrymogènes d'autant plus toxiques qu'ils étaient périmés depuis 2019. L'officier Adama Konaté l'affirme, il a retrouvé les cartouches à l'issue de recherches personnelles. Aujourd'hui, il souhaite, dit-il, briser le silence. Lui a perdu ses deux fils de 14 et 18 ans qu'il élevait seul. Il a récupéré leur corps dans la nuit à la morgue, aligné à terre.
C'est moi-même en personne qui a cherché le cadavre de mes enfants parmi 100 et quelques cadavres, plus que ça même. Un peu partout jusqu'à 2h du matin, c'est des corps qui circulaient en ville. Depuis que mes enfants sont décédés, je n'ai vu aucune autorité. Je dirais que c'est des poulets qui sont morts là-bas. Moi, mes enfants ne sont pas des poulets. Je souffre pour eux et je vous garantis que je vais poursuivre l'affaire là jusqu'à l'épuisement de mes forces et moyens, même si je suis seul.
Seuls, les 98 plaignants le sont, tout comme leurs avocats et les défenseurs des droits humains, qui composent avec un climat de terreur et de maigres ressources. Quant à l'État, il semble plus soucieux de masquer ses responsabilités. Emmanuel Fassou-Sagno, président du collectif des ONG de défense des droits de l'homme de la région de Nzérékoré.
La plupart des victimes étaient habillées avec les t-shirts, avec l'effigie du président. Mais à la morgue, on les a tous enlevés pour ne pas qu'on sache que c'est les victimes du président de la transition. La plupart des corps que nous avons vus avaient la tête broyée. La plupart ont été retirés pour ne pas que l'opinion se rende compte que c'est des véhicules des ministres qui étaient là, les préfets, les gouverneurs, leurs véhicules ont marché sur eux.
Ils ont roulé sur eux.
Oui, ils cherchaient à se sauver. C'est qu'il y a des autorités qui ont en charge de protéger les populations, qu'eux-mêmes ils ont invitées, ne pouvaient pas se comporter de la sorte.
Un comportement qui continue de susciter l'incompréhension et la colère, des sentiments entremêlés au deuil chez Maurice Agneau, chauffeur routier, dont le fils Lanciné, 7 ans, est également décédé au stade.
Ils ont invité nos enfants, ils n'ont pas garanti leur sécurité. Ils ont tous tué. Après, on va vous dire, il faut pardonner. Ce n'est pas comme ça. Les gens sont venus tuer nos enfants, banalement. Mais la manière qu'ils ont fait, on dirait qu'on n'est pas le même pays. On ne vient pas du même pays. C'est pourquoi j'ai apporté ma plainte. Moi, mon nom, c'est Maurice Agneau. Moi, je n'ai pas peur. On va les juger devant tout le monde. C'est ça que moi, je veux, quoi.
Une plainte, notamment pour meurtre et violence volontaire, a été déposée le 10 mars au tribunal de première instance de Nzérékoré. Elle épingle une vingtaine de hauts responsables de la police et de l'armée, mais aussi les organisateurs du tournoi, une structure à la solde du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le tribunal est resté silencieux jusque-là. Quant aux festivités, à la gloire du putschiste Doumbouya, elles se poursuivent dans le pays comme une pré-campagne présidentielle.
Le reportage est signé Agnès Fèvre. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Kevin, c'est d'abord au Kosovo que nous sommes et c'est un peu un jour sans fin.
La même scène qui se reproduit encore et encore. Alors là, ce n'est pas quotidien, c'est tous les deux jours. Tous les deux jours, les députés se réunissent à l'Assemblée, appelés à élire leur président. Et tous les deux jours, c'est un échec. Hier soir, pour la 15e fois consécutive, les élus issus des législatives du 9 février se sont quittés sans accord. Les dernières élections qui ont vu le VV, le parti de centre-gauche au pouvoir, arriver en tête, mais avec 48 députés seulement, il en faut 61 pour avoir la majorité absolue. Il faut donc une coalition, sauf que les partis d'opposition ne veulent pas de la candidate du Premier ministre pour la présidence de l'Assemblée. Et Albin Kurti se braque en refusant de présenter une autre personnalité à ce poste. Aucun gouvernement ne peut être nommé au Kosovo sans que le bureau de l'Assemblée n'ait été élu. Tout est donc complètement paralysé, sauf que le Kosovo a besoin de voter, notamment pour ratifier le plan de croissance de l'Union européenne pour les pays des Balkans, qui prévoit près de 900 millions d'euros de prêts et de subventions. Il faut que ce vote ait lieu avant le mois de juin pour éviter les retards de paiement.
Et nous sommes en... Nous sommes donc en Égypte, avec un rabais.
Moins 15%, ce ne sont pas les soldes, mais la réduction des tarifs dès demain pour les porte-conteneurs qui empruntent le canal de Suez. Annonce hier de l'autorité égyptienne qui gère la voie navigable qui relie l'Europe à l'Asie. Une promotion qui s'appliquera dès demain et pour 3 mois pour faire revenir les plus grands navires du monde qui ont déserté la mer Rouge en raison des attaques menées par les rebelles houthis du Yémen contre les navires alliés du Hamas palestinien. Ils visent les bateaux qui viennent d'Israël ou de pays considérés comme leur soutien. Et c'est un gros manque à gagner pour l'Égypte. Le mois dernier, le président Sissi estimait à 7 milliards de dollars la perte de recettes en 2024 pour son pays. 12% du commerce maritime mondial transite par le canal de Suez.
Et puis nous sommes en Italie, Kevin, où le tournoi de tennis de Rome est perturbé.
Oui, par les parieurs. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend l'ampleur. Je vous explique. Il est possible de parier sur presque tout, et plus seulement sur le résultat d'un match de tennis. Par exemple, certains misent sur le fait que tel joueur va réussir à breaker son adversaire, c'est-à-dire gagner le jeu alors que c'est l'autre qui est en train de servir. Ils parient jusqu'à la dernière seconde sur les plateformes, alors qu'ils sont eux-mêmes en tribune. Et pour que le match tourne en leur faveur, ils tentent de faire du bruit, siffle les joueurs, voire même les insultes pour les déstabiliser. Ça se passe surtout sur les cours annexes, moins surveillés. Les organisateurs du tournoi de Rome ont publié un communiqué hier indiquant qu'ils allaient renforcer les contrôles parce que des incidents ont été rapportés depuis le début du Masters 1000 sans donner d'exemple précis. La Fédération italienne de tennis promet que les perturbateurs identifiés ne pourront plus jamais remettre les pieds sur un site de compétition géré par cette même fédération.
Merci beaucoup Kevin Dufraîche. Moi je parie que pour revenir demain.
Ah oui, c'est vrai.
La cote est très basse parce qu'il y a peu de chances de se tromper.
1,01 voilà. La cote.
Allez, vous partez avec quelqu'un qui a son rond de serviette ici dans le 18-20 et sur la playlist d'Inter. Green Tea Peng, One Foot. A tout de suite.
I'm one foot front and back again. Don't tell me it'll be like this until the end. I'm learning to surf, my friend, these treacherous oceans. I'm fucking exhausted, messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Foot front and back again. That's just a comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me?
One Foot sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h. Ouh là là, 51, c'est Louise Baudet. How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Louise, la relation franco-algérienne s'enfonce un peu plus dans la crise avec de nouvelles expulsions de personnel diplomatique. Et vous nous expliquez pourquoi le dégel entre Paris et Alger n'est pas du tout d'actualité.
Oui, énième chassé-croisé d'agents expulsés de part et d'autre de la Méditerranée. Les Algériens ont souhaité renvoyer nos agents. Nous renvoyons les leurs. Explication ce matin du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, 3 jours après l'annonce algérienne. Mesure, dit-il, strictement proportionnée. On ignore combien d'agents sont concernés. En tout cas, le fossé entre Paris et Alger n'a jamais été aussi profond depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et sur l'échelle de Richter diplomatique, on atteint un niveau de tension inédit. Voilà 10 mois qu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien en France et son homologue français à Alger est, lui, rappelé pour consultation, autrement dit de retour à Paris depuis la mi-avril.
C'est un dossier bien ténébreux qui a fait rebondir la crise diplomatique.
Oui, c'était il y a un mois, l'arrestation et la mise en examen en France de 3 Algériens, dont un agent consulaire, pour enlèvement et séquestration en avril 2024 d'Amir Dezed, influenceur algérien exilé en France, kidnappé près de chez lui, puis drogué et finalement libéré 27 heures plus tard. L'enquête sur son enlèvement a été confiée à un juge antiterroriste et elle vient encore de rebondir. Le renseignement intérieur français incrimine désormais un 4e protagoniste, agent du renseignement algérien sous couverture diplomatique, étroitement mêlée selon le rapport de la DGSI aux préparatifs et à la supervision du kidnapping.
Et donc les arrestations dans le cadre de cette affaire ont déclenché la colère d'Alger alors qu'on avait cru à une embellie.
Oui, détente initiée le 31 mars par un coup de fil entre les présidents Macron et Tebboune, puis la visite une semaine plus tard du ministre des Affaires étrangères français à Alger. Visite qui paraît alors remettre la France et l'Algérie sur la voie du dialogue, mais la parenthèse s'est brutalement refermée et la coopération est aujourd'hui totalement interrompu, notamment sur le plan sécuritaire. D'autant qu'Alger voit derrière les arrestations la main au nid de sa bête noire, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, accusé de barbouzerie et personnellement visé.
Et Louise, cette crise n'est pas une brutale sortie de route, c'est le résultat d'un enlisement continu.
Oui, on en est à bientôt 10 mois de discorde déclenchée l'été dernier par le geste d'Emmanuel Macron reconnaissant la souveraineté du Maroc, grand rival de l'Algérie, sur le Sahara occidental. Crise lestée par le débat sur les OQTF, Alger bloque ses décisions d'éloignement et ne reprend pas ses ressortissants expulsables. Crise alimentée par des enjeux de politique intérieure, guerre des clans en Algérie, climat de pré-campagne présidentielle en France, la fermeté migratoire en tête de gondole, sans oublier les feux mal éteints du contentieux colonial. Crispation récurrente, instrumentalisée, qui pèse sur le plan politique mais aussi économique. En un an, les échanges commerciaux entre Paris et Alger ont diminué de 20%. La France achète notamment moins de gaz et de pétrole à l'Algérie, très dépendante de la rente des hydrocarbures. Difficultés économiques conjuguées à un isolement diplomatique croissant qui contribue à la crispation des autorités algériennes.
Et cet interminable feuilleton, Louise, renforce encore l'inquiétude des proches de Boualem Sansal.
Ouais, l'écrivain franco-algérien âgé de 80 ans et atteint d'un cancer est incarcéré depuis maintenant 6 mois. Condamné fin mars à 5 ans de prison ferme pour avoir nui à l'unité nationale. Il attend son procès en appel qui devait se tenir en mai. Alors une grâce est-elle envisageable? C'était la sortie de crise espérée à Paris, mais ni ce scénario ni aucun autre ne se dessine pour dégeler une situation où l'affrontement comme le dialogue n'ont pour l'heure produit aucun résultat.
Louise Baudet, à demain et direction la Croisette, c'est là que nous attend Corinne Pélissier, c'est le cinéma en VO.
Moteur. France Inter. And the Oscar goes to... Un jour dans le monde.
Voilà donc au Festival de Cannes pour l'événement, que dis-je, l'événement, le méga événement de la quinzaine. La présentation du dernier volet de la saga Mission Impossible, Corinne, The Final Reckoning et la venue sur la croisette donc de Tom Cruise. Et je l'avais parié, Corinne, il est arrivé très sobrement sur le tapis rouge.
Oui, en signant des autographes à pied par l'entrée avec ses lunettes de soleil, son joli smoking, entouré de l'équipe du film, du réalisateur Christopher McQuarrie, et accompagné, vous l'entendez sans doute, pour l'ambiance, de musiciens venus jouer le thème original de Mission Impossible de Lalo Schifrin. Pas d'hélicoptère, pas de moto, pas de corde d'escalade, parce que le show, eh bien, c'est à l'intérieur du palais des festivals que ça se passe, avec évidemment cette question que tout le monde se pose. Tom Cruise, Ethan Hunt, peut-il mourir ou disparaître dans ce 8e épisode qui vient clore un chapitre ouvert il y a 30 ans au cinéma avec Brian De Palma et un premier film aux cascades déjà pleine de promesses. L'entrée du comédien par effraction dans la chambre forte de la CIA, suspendue à une corde, jusqu'à ce final aujourd'hui en apothéose, rempli d'action, de prouesses physiques, avec ces deux scènes dont le making-of est déjà pas mal tourné sur Internet. La première dans un sous-marin, la seconde à bord d'un avion biplan lancé à plus de 3000 mètres d'altitude. On pensait avoir tout vu dans l'épisode précédent où Tom Cruise s'est lancé dans le vide à moto. Eh bien, ce n'était qu'une mise en bouche de ce qui nous attend dans ce film de 2h50 qui pousse tous les curseurs à fond. Simon Pegg, l'inoubliable Benji de la saga, en a encore les yeux qui brûlent.
Je suis toujours impressionné par les limites que Tom est prêt à franchir pour offrir au public des sensations authentiques. Et à chaque fois qu'on fait un film, il pousse le curseur toujours plus loin. On ne peut pas simuler la force ni la vitesse du vent. On ne peut pas simuler la gravité. C'est incroyable de le voir faire. Chaque fois que vous commencez un de ces films, vous ne savez pas ce qui va arriver à votre personnage. Vous n'êtes jamais sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est une vie dangereuse, mission impossible. C'est fou quand je repense à tout ce que nous avons fait et à tous les endroits où nous sommes allés. Ce film, Final Reckoning, est la version la plus aboutie et la plus évoluée de Benji que nous ayons eue. C'est la 6e fois que je joue ce personnage et c'est un peu la somme aujourd'hui de tout ce qu'il a dû faire dans les autres films depuis 30 ans. Enfin, 20 ans pour moi. Lorsqu'il est apparu à l'écran pour la première fois, il était très naïf, très innocent. Et maintenant, c'est un vrai leader, expérimenté et compétent.
Alors, la force de la saga, Corinne, bien sûr, ce sont les cascades effectuées sans doublure par Tom Cruise, 62 ans au compteur quand même. Et ce qui fait sa marque de fabrique, c'est aussi son regard sur le monde.
Voilà, 30 ans de voyage, d'aventure pour l'IMF, l'Impossible Mission Force, qui est passé par toutes les capitales européennes, toutes les villes d'espions, à lutter contre tous les dangers, à affronter tous les ennemis, depuis la guerre froide dans les années 90 à l'écran, jusqu'à aujourd'hui, la guerre de l'information, incarnée par une intelligence artificielle, l'entité bien décidée à s'emparer du pouvoir et à régner sur le monde.
Nous avons toujours traité de sujets ancrés dans la conscience du public et dans le monde réel. Même s'il s'agit d'une histoire fantastique avec une technologie un peu magique, des masques et tout ce genre de choses, nous essayons toujours de garder les pieds ancrés dans les préoccupations du moment. Lorsque nous avons commencé le film, l'entité semblait être une idée de science-fiction, mais aujourd'hui, elle ressemble à quelque chose qui pourrait se produire et qui est peut-être en train de se produire. La vérité est en danger et nous devons faire très attention à ce que nous croyons. C'est le message du film. Ne nous laissons pas diviser par des forces telles que l'entité qui chercherait à nous dresser les uns contre les autres.
Simon Pegg, Benji et son équipe qui nous demandent dans ce film de leur faire confiance une dernière fois. Tout ce qui s'est produit depuis 30 ans dans la saga, tous les personnages, les portes qu'on a ouvertes, jamais fermées, nous ont conduit à cet épisode qui clôt un chapitre aujourd'hui. Et ce n'est sans doute pas la fin d'une saga très bankable. 1,5 milliard de dollars au box-office. Pas besoin de réviser les épisodes pour apprécier ce dernier film, le 4e du réalisateur Christopher McQuarrie, qui forme avec Tom Cruise un duo de choc. 18 ans de collaboration, de cascades insensées pour Mission Impossible, mais aussi Jack Reacher, Top Gun, pour lequel Tom Cruise avait déjà été accueilli en héros sur la croisette il y a 3 ans avec la Patrouille de France.
Allez, donc pour Cannes, ce sera ce soir pour nous au cinéma, c'est mercredi prochain, je vous préviens, si tu hit and hunt, je vais très mal le vivre. Merci beaucoup Corinne Pélissier. La suite du 18-20, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Ce soir, alors que l'audition du Premier ministre sur Betaram se poursuit, on parle de cette honte qui n'a pas lieu d'être, mais qui parfois empêche les enfants de parler, celle des parents aussi d'ailleurs.
J'ai le temps pour le message de Florence. À partir du collège, mon enfant a une pression qui s'exerçait sur lui, il a subi des humiliations, il avait des angoisses terribles, il est aujourd'hui sorti du système scolaire, on culpabilise beaucoup en tant que parent.
01 45 24 7000, bien sûr, sur France Inter, il est 19h.